VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Au Burkina Faso, un dépôt d'armes et de munitions de l'armée burkinabé près de Ouagadougou a été attaqué aujourd'hui selon l'armée burkinabé dans un communiqué. Aux environs de 3h, heure locale, une tentative d'incursion n'ayant fait aucune victime a eu lieu au niveau du magasin d'armement de la ville de Yemdi à 20 km à l'ouest de Ouagadougou, indique le communiqué qui ajoute que les auteurs de cette tentative ont été identifiés comme des éléments récalcitrants de l'SRSP, l'unité auteur d'un putsch raté au mois de septembre dernier. En Guinée-Bissau, les députés du principal parti d'opposition et ceux exclus du parti au pouvoir se sont réunis hier au Parlement malgré la suspension des travaux par le président de l'Assemblée nationale. Le pays s'enfonce dans une nouvelle crise. John Lydon.
La séance a démarré à huis clos sur ordre du président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kazama. 41 députés du parti de la Rénovation sociale, la formation d'opposition et 15 dissidents du PAIGC étaient présents. Ces 15 députés ont été exclus du parti au pouvoir pour s'être abstenus lors du vote sur la déclaration de politique générale du nouveau premier ministre Carlos Carrera. Une nouvelle séance lundi a failli tourner à la foire d'empoigne. Depuis hier, le pays a de fait deux parlements et un gouvernement. La veille, l'ex-premier ministre Domingos Simoes Pereira, limogé en août 2015 par le chef de l'État José Mário Vaz, a dénoncé un coup d'État orchestré à partir de la présidence. Il avait appelé les militants à s'éteindre prêts à défendre la victoire conquise par les urnes. L'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne, très inquiètes, appellent au dialogue dans ce pays instable qui a déjà connu plusieurs coups d'État.
Le parti du président malgache Eri Rajao Narimam Pianin, le HVM, a remporté une large victoire aux élections sénatoriales du mois dernier selon les résultats officiels définitifs rendus par la Haute Cour constitutionnelle. Le HVM a remporté au moins 4 sièges sur 7 dans chaque province du pays, confirmant les prévisions des observateurs qui s'attendaient à une écrasante victoire du parti du chef de l'État. Outre ces 42 élus, 21 sénateurs seront désignés directement par le président malgache conformément à la Constitution.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'attaque contre un restaurant du front de mer de la capitale somalienne, Mogadiscio, jeudi a fait au moins 19 morts selon un bilan fourni par la police ce vendredi. Après une violente explosion, des hommes armés ont fait irruption dans le restaurant alors que des clients étaient attablés. Les rebelles Shebab affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque dans laquelle 4 de leurs hommes armés ont été tués et l'un d'entre eux capturé. En Tunisie, 16 personnes ont été interpellées dans la nuit à la suite du saccage et des pillages dans un quartier populaire du Grand Tunis, en marge de la vague de contestation sociale en cours en Tunisie, ont affirmé aujourd'hui les autorités. La Tunisie a réussi sa transition politique après la révolution du printemps arabe, mais les disparités économiques persistent, suscitant des remous qui menacent la stabilité du pays. Le géographe tunisien Habib Ayeb dénonce la gestion du président Caïb Essebsis.
Il est là depuis un an, tout ce qu'il fait, c'est exactement le contraire. Tous les gouvernements qui ont pris le pouvoir depuis 2011, ils font absolument le pouvoir. Ils vont même jusqu'à prétendre qu'il n'y a pas des problèmes sociaux. Toute l'économie est orientée vers un libéralisme sauvage que même Ben Ali n'a pas osé adopter. Il n'y a aucune indication dans la politique du gouvernement qu'on est à la recherche d'un nouveau modèle. Et le fait même quand le premier ministre tunisien participe à Davos, franchement, ça n'indique pas une recherche d'un nouveau modèle. Ça indique une soumission totale à un libéralisme, au modèle libéral, mais dans sa version la plus sauvage.
Habib Ayeb, géographe tunisien. Les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU, accueillis au Burundi par une nuit de violence à Bujumbura, vont tenter aujourd'hui de convaincre son président, Pierre Nkurunziza, d'autoriser le déploiement d'une force africaine auquel il s'oppose fermement et de prendre les discussions avec ses opposants. Une rencontre avec le chef de l'État est prévue en début d'après-midi à Gitenga, à une centaine de kilomètres à l'est de Bujumbura. Les 15 diplomates ont rencontré dans la matinée à Bujumbura le ministre des Affaires étrangères Alain Niamitwe et le vice-président Gaston Sindumwo. puis des représentants de la société civile dont les principaux acteurs sont en exil. C'est leur deuxième visite en moins d'un an au Burundi, plongé dans une grave crise depuis l'annonce fin avril de la candidature du président Nkurunziza à un troisième mandat controversé. Signe de l'inquiétude internationale d'une nouvelle spirale incontrôlable dans ce petit pays d'Afrique des Grands Lacs, à l'histoire post-coloniale jalonnée de massacres entre majorité Hutu et minorité Tutsi.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et les États-Unis ont commencé hier à appliquer les nouvelles règles plus contraignantes concernant les exemptions de visa pour les personnes qui ont séjourné en Iran, en Irak, en Syrie ou au Soudan. Eric Manirakiza.
Le département de la sécurité intérieure a décidé que les visiteurs souhaitant venir aux États-Unis et qui ont séjourné en Iran, Irak, Soudan ou en Syrie depuis 2011 auront à présent besoin d'un visa. Les personnes qui ont la double nationalité iranienne, irakienne, soudanaise ou syrienne devront aussi solliciter un visa. Cette contrainte administrative devient obligatoire même si ces personnes viennent de la quarantaine de pays exemptés de visa. Ces nouvelles mesures ont été décidées dans la foulée des attentats de Paris en novembre dernier et de San Bernardino début décembre. La loi votée par le Congrès a été signée par le président Barack Obama. Environ 20 millions de personnes viennent aux États-Unis chaque année sans visa pour des séjours d'au moins de 90 jours, dont quelques 13 millions d'Européens qui doivent remplir en ligne le formulaire ESTA.
États-Unis, Iran, quelques jours après que le président Barack Obama s'est félicité des fruits de la diplomatie avec l'Iran, les parlementaires républicains au Congrès font pression pour l'adoption de sanctions encore plus dures contre l'Iran. Timothée Donangmaï.
Pendant que les sénateurs se dépêchent de quitter Washington avant la grande tempête de neige que l'on prédit pour la région cette fin de semaine, plusieurs républicains ont parlé de l'Iran. Parmi eux, la sénatrice Kelly Ayotte.
Nous devons tenir tête à ce régime iranien. Leurs tests illégaux de missiles balistiques et leur soutien continu à la prise d'otages. Nous allons imposer des sanctions plus dures.
De son côté, le sénateur John McCain, l'adversaire républicain de M. Obama en 2008, a accusé le président d'être tellement attaché à l'accord sur le nucléaire iranien qu'il a fermé les yeux sur les provocations de l'Iran.
Et ce secrétaire d'État font tout pour plaire aux Iraniens. Peu importe ce que ces derniers font, peu importe l'offense qu'ils vont subir, M. Obama et Kerry ne feront absolument rien. Ce sera donc au Congrès d'agir.
Les parlementaires républicains n'ont pas précisé les mesures punitives qu'ils envisageaient à l'encontre de l'Iran. Mais on se rappelle que dimanche dernier, le président Barack Obama a salué la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire iranien signé l'an dernier avec Téhéran par les États-Unis et leurs partenaires du P5+1.
Au terme de cet accord sur le nucléaire que nos alliés, partenaires et nous-mêmes avons conclu l'an dernier, l'Iran ne mettra pas la main sur une bombe nucléaire. Nous sommes parvenus à ce progrès historique grâce à la diplomatie sans recourir à une autre guerre au Moyen-Orient.
En tout état de cause, pour l'adoption de sanctions, toute proposition de loi des républicains devra bénéficier du soutien d'un certain nombre de sénateurs démocrates pour être approuvée. Or, l'an dernier, le rejet de l'accord sur le nucléaire a été bloqué au Sénat quand la minorité démocrate a empêché les républicains d'obtenir la majorité des deux tiers requise.
Un policier de l'Oklahoma a été condamné jeudi à 263 années de prison pour avoir violé et abusé sexuellement de multiples femmes noires dans l'exercice de ses fonctions. Daniel Osclave a été jugé coupable de 18 chefs d'accusation sur 36, notamment de viol et sodomie. Forcé, d'après des documents consultés sur le site d'information judiciaire de l'Oklahoma, M. Osclave était poursuivi à la fois par le procureur de l'Oklahoma et par plusieurs victimes afro-américaines. Enfin, la Birmanie a libéré aujourd'hui une centaine de personnes, dont au moins 34 prisonniers politiques, d'après les autorités et les associations, à quelques jours d'une transition politique historique avec l'arrivée au pouvoir du parti Aung San Suu Kyi. D'après l'association d'assistance aux prisonniers politiques, 129 prisonniers politiques étaient incarcérés en Birmanie et 408 militants en attente de procès pour des actions politiques. Jean-Roger Billon, tout à l'heure dans 50 minutes, Henri Francis à ce micro.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.